Marie-Catherine Ray, bonjour.
Bonjour.
Alors, les très riches heures de la cour de Chine, pourquoi cette exposition ?
Pourquoi cette exposition ? Pourquoi son titre ? Déjà, dans le titre, on a une réponse un peu. Le projet de l'exposition était au départ d'exposer l'ensemble des rouleaux dits impériaux, qui sont en fait des rouleaux de commande des empereurs de Chine à des peintres des ateliers impériaux. Et quand ce projet donc a commencé à prendre forme, je me suis dit qu'il fallait peut-être présenter ces rouleaux de façon un petit peu différente de ce qui avait été fait jusque-là, puisque ces rouleaux sont connus surtout comme des références historiques ou des références narratives pour voir comment on vivait à l'époque, quels étaient les costumes, etc. Et moi, je me suis dit, le public, après avoir découvert la peinture chinoise, soit au musée Guimet, soit dans des grandes expositions du type de ce qui avait été fait au Grand Palais, les Montagnes Célestes, le public va découvrir une peinture qui est très différente à première vue, au premier regard, et qui en même temps appartient à l'histoire de la peinture. Elle n'est pas très étudiée en tant que peinture elle-même dans la tradition occidentale, parce qu'on considère que donc ça a plus de charge narrative ou décorative que historique par rapport à cet angle de la peinture. Et donc je me suis dit, le public occidental, dans un premier temps, va voir ça comme des miniatures médiévales, avec ce côté pittoresque, foisonnant, très coloré. Et en même temps, peut-être qu'il y a autre chose à lui dire que regarder ce pittoresque, ce foisonnement. Et un peu comme d'ailleurs l'histoire des miniatures médiévales, il y a quelque chose derrière. Les miniatures médiévales, on les a aussi beaucoup regardées comme des documents historiques. Ils ont illustré nos livres d'histoire. Hein, tout le monde les connaît par cet angle-là. Mais ça n'est que relativement récemment qu'on a réinscrit ça dans l'histoire du paysage, de la construction du paysage dans l'histoire de la peinture occidentale. Alors, pour les rouleaux impériaux, ça vient à la fin, et non pas au début d'un genre de peinture, ça vient là une sorte d'apothéose de la peinture à la fois narrative et de paysage, mais ce petit clin d'œil était pour dire aussi au public, de façon un petit peu, je dirais, inconsciente ou subliminale, vous allez voir une peinture qui n'est pas forcément étrangère et étrange, comme peut l'être la peinture chinoise au regard occidental. Voilà.
Avant de revenir au rouleau, est-ce qu'on pourrait rappeler comment s'est constituée la collection de peinture chinoise du musée Guimet ?
Alors, la collection de peinture chinoise du musée Guimet s'est constituée en plusieurs temps, qui a correspondu à des étapes un petit peu différentes du goût et de la connaissance en Occident de ces peintures. Ces rouleaux impériaux ont été collectionnés par des collectionneurs qui étaient en Extrême-Orient, et les autres peintures chinoises ont correspondu à des achats de collectionneurs qui avaient des goûts particuliers, personnels. Le gros de l'exposition pour les peintures, c'est la collection de Jean-Pierre Dubos, qui était un collectionneur qui avait l'œil sur un type de peinture qui n'était pas encore très apprécié en Occident, et notamment cette peinture de la phase de transition entre les Ming et les Qing, et la peinture des Qing, donc cette peinture du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc ce sont des pièces qui ont été achetées entre les années 20 et les années 50, grosso modo. Bien sûr, il y a eu de nombreux enrichissements, et l'exposition présente un certain nombre d'acquisitions très récentes, mais qui proviennent de la collection du Bosque, de choses qui n'étaient pas encore rentrées dans nos collections.
Si on devait tenter une définition générale de la peinture chinoise, on pourrait dire quoi ?
Une définition générale. Écoutez, c'est une peinture qui est caractérisée par les moyens techniques utilisés par le peintre chinois, qui sont très réduits par rapport à la tradition occidentale. C'est-à-dire, c'est une peinture qui n'est pas une peinture à l'huile, c'est une peinture essentiellement sur soie ou sur papier. Papier ou soie qui est sous-tendu d'un papier plus fort, sur des rouleaux donc verticaux ou horizontaux, donc des formats là encore qui ne sont pas du tout habituels en Occident. Et puis les outils sont très simples, c'est un pinceau, mais c'est le même pinceau à la fois pour l'écriture et pour la peinture. Et le matériau principal, évidemment, c'est l'encre, donc très peu de couleurs. Alors évidemment, les rouleaux impériaux sont une exception, il y a beaucoup de couleurs par contraste, mais disons que finalement la technique n'est pas si différente. Alors tout cela pour revenir à votre question, une définition générale, c'est une peinture qui, avec très peu de moyens, creuse dans toutes les directions les possibilités que donne au peintre le pinceau et l'encre sur de la soie ou du papier.
Elle est née quand ?
Elle est née, on l'a fait naître sous les Han au 3e, 2e siècle avant notre ère, c'est-à-dire à cette période où sont peintes des bannières, sont peintes des bannières qui accompagnent les tombeaux, et enfin les plus exactement les... Je vais... Excusez-moi.
Bah, c'est pas grave, on le retrouvera plus tard.
Je cherche le terme. Les linceuls, ce sont des linceuls, excusez-moi, donc, et qui accompagnent le mort dans sa dernière demeure. Et on a notamment la fameuse bannière dite de Mawangtwe, où on a tout cet étagement depuis le sol jusqu'aux cieux des différents niveaux d'existence et de personnages fantastiques qui coexistent dans une idée que l'on se fait de l'au-delà. Et plus largement, elle est aussi dans ses mausolées, dans ses tombes, sur les murs, c'est donc une peinture murale, et aussi sur les cercueils, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, excusez-moi. Donc sur les cercueils de Lac, vous avez une peinture au pinceau avec des traits extrêmement fins et qui font déjà l'esthétique de la peinture chinoise. Et ensuite, c'est une tradition qui va perdurer jusqu'au moins sous les Tang, de cette peinture liée au monde funéraire. Ensuite, ça va être aussi, évidemment, tout l'épisode bouddhique et la peinture sur les grottes, sur les murs des grottes. Et là encore, c'est important parce que c'est une peinture qui va d'emblée se poser comme une sorte d'ouverture de l'espace de la tombe. Ce n'est pas une peinture qui se limite à des espaces restreints. Il peut y avoir des portraits, mais relativement peu, ils sont assez symboliques. Mais c'est surtout une peinture qui ouvre l'espace. Et la peinture de paysage va naître précisément à l'époque des Tang, dans les grottes bouddhiques, avec cette naissance d'un paysage dans lequel on va faire figurer toutes les scènes des grands épisodes bouddhiques. Et ensuite, la peinture sur rouleau prendra le relais.
Et quand ?
Alors, sous les Tang, on est 8e, 9e siècle. Ensuite, c'est très vite 9e, 10e siècle, 11e siècle. Alors, la grande période, si vous voulez, de ce qui commence à être la grande histoire de la peinture, c'est sous les Song, 11e, 12e siècle.
Alors, au 17e, 18e, ce que vous montrez dans l'exposition, qui peint en Chine à cette époque ?
J'ai envie de dire tous les traits, c'est-à-dire tout homme formé à l'usage du pinceau, par l'écriture, par la calligraphie, qui est un art majeur, c'est peut-être l'art majeur de la tradition chinoise, tous les traits peints. Ceci étant dit, pour répondre de façon plus précise par rapport à l'histoire de la peinture et à ce qui reste des œuvres majeures, ce sont des... soit des lettrés donc, qui ont ce moyen d'expression parallèlement donc, à la calligraphie, à la musique, soit des peintres d'atelier, des peintres officiels, et qui sont là les peintres proches de la cour, et qui correspondent à ceux qui ont exécuté ces peintures, ces rouleaux impériaux que nous exposons.
Mais les empereurs aussi peignent ?
Alors bien sûr, mais les empereurs peignent en tant que lettrés. Voilà. Déjà sous les Song, vous avez l'empereur Huizong qui peint et qui est un peintre reconnu dont on a conservé les peintures. Mais il peint parce que c'est un exercice du lettré.
Oui, alors il est lettré et guerrier en même temps.
Alors les peintres peuvent être effectivement lettrés et guerriers. Alors évidemment, les figures des grands empereurs mandchous sont exemplaires à ce point de vue-là, puisque à la fois ce sont donc des monarques qui viennent et qui s'imposent de l'extérieur, qui viennent de la périphérie de la Chine et qui ont besoin de s'imposer par la conquête et de maintenir un peu cette pression que représente la conquête. Mais en même temps, ils savent très bien qu'ils ne peuvent se légitimer profondément et s'inscrire dans la longue tradition des dynasties chinoises que par la pratique des arts traditionnels que sont la peinture, la calligraphie. Donc effectivement, et la poésie également, effectivement, s'ils peignent ou s'ils font de la calligraphie, c'est en tant que lettré, empereur lettré.
Quelle fonction joue la peinture à cette époque ?
C'est une fonction d'expression de la sensibilité, si vous voulez. Là, on peut considérer que la peinture est quasiment une sorte de sismographe indiquant toutes les émotions de l'âme. Et cette émotion est relayée aussi par la calligraphie. Il n'y a pas de séparation entre l'un et l'autre. Hein, d'une certaine façon, la correspondance est permanente et le lien est permanent entre l'expression dans l'écriture et l'expression dans la peinture. Donc c'est vraiment une fonction d'expression profonde, d'émotion, d'interprétation aussi de ces émotions. Je dirais qu'il faudrait peut-être, par rapport aux grands modèles que sont les peintres de la tradition, considérer les copies que font les peintres qui les suivent, comme un peu les variations sur un thème de, comme on le fait dans l'histoire de la musique en Occident, si vous voulez, ou comme une interprétation. Bach est le compositeur, et ensuite tous les interprètes qui se succèdent depuis Bach jusqu'au XXe siècle ont apporté leur touche à l'interprétation de la musique de Bach. Mais l'histoire de la peinture, c'est un peu ça, si vous voulez, en Chine, c'est-à-dire il y a quelques maîtres dont on ne connaît pas forcément les œuvres, dont on a entendu parler parce qu'il y a des ouvrages qui les citent, et ensuite chaque peintre a à cœur de retrouver ce qu'il sait être l'émotion que procure la peinture de tel peintre.
Dans votre exposition, il y a beaucoup de peintures de commande. Est-ce qu'il y a un style différent entre la peinture de commande et l'autre peinture ?
Oui, bien sûr. Non seulement il y a un style différent entre la peinture de commande et l'autre peinture, et c'est ce que j'ai essayé de montrer en confrontant pour un même peintre, par exemple au début de l'exposition, le peintre Wang Rui, les rouleaux de commande donc horizontaux et le même peintre qui s'exprime dans une peinture verticale. Mais il y a aussi des différences entre les trois époques des peintures de commande, c'est-à-dire il y a manifestement une différence entre le peintre qui répond à la commande de l'empereur Kangxi, celui ou ceux qui répondent à la commande de l'empereur Yongzhen, le second, et ceux qui répondent à la commande de Qianlong. Donc cette exposition permet aussi au public d'exercer son œil, d'exercer son regard sur des choses qui peuvent paraître, quand on les regarde un peu distraitement, répétitives et qui au contraire sont finalement très différentes, qui creuse une veine plus marquée, qui choisit de développer une interprétation, un éclairage, une émotion. Manifestement, les peintures de Wang Rui sont beaucoup plus marquées par la poésie du paysage que les peintures de la dernière partie, où c'est plutôt une sorte de jubilation de la nature qui s'exprime, de plaisir dans la couleur. Il y a une retenue dans les premières peintures, les peintures de Wang Rui, qui tiennent au fait que Wang Rui est un peintre lettré, la figure même du peintre lettré. Tandis que dans les dernières peintures, il y a la collaboration du peintre d'origine italienne Castiglione, il y a évidemment des peintres chinois, mais c'est plus l'idée que l'empereur se fait de la peinture qui est exprimée dans cette peinture.
On voit aussi une grande différence avec le paysage en tant que tel. Et vous proposez des exemples de bibliothèques de peinture. C'est quoi une bibliothèque de peinture ?
Alors, une bibliothèque de peinture, j'ai pris ce terme que j'ai mis entre guillemets, simplement pour dire que la tradition chinoise a un rapport à ce qu'étaient ces albums de peinture qui relèvent du rapport que l'on a, nous, en Occident aussi, aux livres. C'est-à-dire que ce sont des choses qui, d'ailleurs, matériellement, sont conservées comme des livres, sont construits sur des feuilles qui sont un montage accordéon la plupart du temps, ou des feuilles d'album qui s'ouvrent en deux parties, absolument comme les livres, qui reprennent les formats des livres et qui, par ailleurs, sont dans un rapport de... d'intimité, si vous voulez, et de sensibilité à des choses très ténues que sont la nuance de l'encre, le grain du papier, et ce que le peintre peut en faire de la façon dont le papier absorbe l'encre, la façon dont, plus ou moins, de façon plus ou moins sèche, l'écriture, la calligraphie ou la peinture vont s'inscrire, qui sont du même ordre. Donc on est à la fois dans le même registre mental et le même registre émotionnel ou esthétique. Et c'est pour cela que je me suis permis cette petite comparaison qui me paraît assez évocatrice du rapport intime et personnel et de respect, et de respect lettré dû à cette formation lettrée qu'ont les peintres.
Alors, quand les Qing arrivent au XVIIe siècle, ils sont mandchous. Qu'est-ce qui change réellement dans la peinture? Parce que pour un œil occidental peu habitué, on a un petit peu de mal, on a l'impression que tout se brouille. On voit bien quelques différences, mais on a perdu les clés. Enfin, on les a jamais eues d'ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous définir ce petit changement, ou ce grand changement d'ailleurs, à l'arrivée des Qing?
Alors, je ne dirais pas que les choses changent, je dirais que l'on fait des choix dans la tradition. Voilà, c'est plutôt ça. Les Qing, donc, ont conscience que d'une certaine façon, ils ont fait un héritage extraordinaire, merveilleux, fabuleux, et que de cet héritage, ils sont les garants. Donc, ils vont plutôt choisir dans la tradition plutôt qu'innover. Ça n'est pas du tout... d'autant plus que, si vous voulez, la notion d'innovation et de progrès est étrangère à la Chine. Hein. La plus grande qualité, d'une certaine façon, est d'être un véritable connaisseur de la tradition. Le grand plaisir, c'est de contempler des objets antiques, c'est de connaître les peintres anciens, voilà. Donc, tout cela pour dire qu'il ne s'agit pas de se positionner en innovant, mais de voir ce que l'on sait, de voir sauver, ou de ce que l'on choisit de prolonger de ce que la tradition nous a transmis. Et c'est pour cela que, par exemple, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, les peintures de la première série, ou Wang Hui, le voyage dans le sud de Kangxi, manifestement, la personnalité de peintre de la tradition de Chine du Sud, de Wang Hui, a joué. Alors que dans la dernière série, les Chasses de Mulan, ce qui joue, c'est la connaissance des individus, entre guillemets, que sont la montagne, l'arbre, la maison, la muraille, dans la tradition, et dont on va se resservir une sorte de citation archaïsante, si vous voulez. Voyez, donc l'esprit est différent. On n'a rien inventé. Hein, ce sont des choses qui ont déjà été dans la tradition à la fois des Song et des Yuan. On n'invente rien, mais on choisit un élément, un éclairage, si vous voulez. Voilà. C'est dans le choix des éclairages, beaucoup plus que dans l'invention, qu'on va pouvoir noter les références. Et par exemple, on le retrouve aussi dans les céramiques. Et vous verrez que, vous avez sans doute vu que les céramiques de la période de Tianlong, de la dernière période, sont elles aussi, comme dans les Chasses de Mulan, les rouleaux contemporains, à jouer sur la façon de mettre en perspective un arbre, de forcer sur les couleurs, de donner les détails des feuilles. Alors que sur les peintures de la période de Kangxi, les peintures sur porcelaine, on a beaucoup plus le sens d'un paysage qui se déploie de façon générale sur la pièce. Voyez.
Est-ce qu'il y a une symbolique des couleurs? Parce que j'ai remarqué que dans le premier sillon, enfin quelque chose comme ça, il y avait beaucoup de fonctionnaires, ce que j'ai imaginé des fonctionnaires, qui étaient habillés en bleu et d'autres en rouge. Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Non, ça vous savez, c'est comme la couleur des chapeaux de la reine d'Angleterre. Hein, il y a des règles, bien sûr, qui sont impératives. Et qui tiennent à la fois, justement, à la distinction entre les Mandchous et les Chinois. Et puis, il y a les couleurs strictement impériales, que sont le jaune, surtout, le jaune impérial et le rouge. Hein, donc, voilà. Mais cette symbolique des couleurs, évidemment, elle est liée à, d'abord, les orientations dans l'espace. Hein. Le rouge, c'est le sud. Le bleu, je crois que c'est l'est, mais je ne suis pas sûre de moi. Donc, il y a un lien entre l'orientation dans l'espace et les couleurs. Et puis, je vous dis, ces règles qui sont fixées par l'étiquette.
Alors donc, ceux qui sont en bleu, oui.
Alors, ce sont des fonctionnaires, effectivement, ou des princes proches de l'empereur, bien sûr. Et à l'empereur et à ses très proches, le jaune. L'impératrice est entourée de personnages aussi en bleu.
D'accord. Alors, est-ce que les jésuites ont joué un rôle important à la cour de Kangxi ?
Oui, à la cour des trois empereurs, hein, les jésuites ont joué un rôle important, même si ça a été un petit peu fluctuant en fonction des ennuis qu'ils avaient aussi en Europe, hein, dont les répercussions se sont fait sentir jusqu'à la cour de Chine. Mais oui, ils ont joué un rôle, que l'on peut distinguer d'ailleurs. Dans un premier temps, à la cour de Chine, on a été très intéressés par tout l'apport technologique qu'ils ont amené, tout ce qui était montres, pendules, sphères, descriptions physiques et cartes, cartographie, etc. Et un peu un sentiment de distance par rapport à ce qu'ils prétendaient apporter, mais quand même de l'intérêt, hein, très manifestement. Et alors, ça a eu quand même une incidence, parce qu'ensuite, quand il a s'agit de retenir, si vous voulez, un certain nombre d'éléments, il y a toujours une résistance par rapport à ce que l'on considérait comme étant fondamentalement la culture chinoise, c'est-à-dire les valeurs de la peinture en particulier. Donc, tout ce qui est influence sur la perspective, etc., c'est beaucoup plus nuancé. On a pu jouer à imiter l'Occident, mais on ne juge pas que c'est un manque que de ne pas connaître les choses de la perspective, par exemple, les règles de la perspective. Ça n'est pas un manque. On a la curiosité. On considère que pour des éléments d'architecture, par exemple, pour représenter des objets, c'est très intéressant. Mais pour ce qui est de l'histoire de la peinture, la Chine n'a aucune leçon à recevoir, bien évidemment. C'est ce qu'on ressent, si vous voulez.
Alors, justement, il y avait beaucoup d'échanges avec les peintres européens, ou Castiglione est un cas unique ?
Non, Castiglione n'est pas un cas unique. C'est le cas le plus exceptionnel, parce qu'il a quand même passé 50 ans dans les ateliers impériaux. Mais non, il y a eu plusieurs artistes à la suite de Castiglione. Moi, si vous voulez, je n'ai pas voulu faire une exposition sur ce sujet qui a déjà été plusieurs fois traité. Donc c'était simplement une citation. Et ensuite, on peut creuser la question en revenant en arrière sur des expositions précédentes. Mais il y a eu en particulier Jean-Denis Attiret, qui était aussi un jésuite très apprécié de la cour de Chine. Mais Castiglione m'a paru la figure la plus emblématique, en particulier parce que je crois qu'il y a eu une vraie rencontre entre lui-même et l'empereur Qianlong, une sorte d'amitié. Qianlong est celui qui a rédigé son épitaphe quand il est mort, qui s'est occupé qu'il soit enterré dans le cimetière des Portugais à l'extérieur de Pékin. Et je crois que les deux se sont rencontrés sur un profond respect pour la tradition chinoise. Voilà, c'était cette figure que j'ai choisie, je vous dis, pour ne pas disperser non plus le sujet de représenter.
Mais qui était cet homme ?
Alors, il a été formé en Italie et il est rentré dans les ordres donc au Portugal, et il a suivi les jésuites en Chine. Et il est arrivé donc en Chine, je ne sais pas si a priori il pensait y rester aussi longtemps. Il a participé à des peintures et des architectures aussi d'ailleurs, des peintures pour les églises jésuites de Pékin. Et puis très progressivement, il est rentré en contact avec les ateliers impériaux, il a été intégré. Et il est intégré à ce point qu'il a un nom chinois. Les Chinois le citent sous son nom chinois de Lang Shening. Il est vraiment considéré en Chine comme un grand peintre. Il fait partie de l'histoire de la peinture chinoise.
Quels étaient les sujets de prédilection de ces peintres ? Parce que là, on voit les chasses, mais c'est peut-être pas que ça.
Alors, ces peintres, c'est-à-dire ces peintres d'origine occidentale ?
Non, pas du tout. Les peintres à la cour des Qing.
Ah, à la cour des Qing. Les sujets de prédilection, ça reste la peinture de paysage. Hein. Simplement, ces peintures sont des peintures de commande pour célébrer de grands événements. Alors à ce moment-là, c'est l'empereur qui choisit et qui dit, demande l'exécution donc de ces voyages dans le sud pour Kangxi ou pour Qianlong, de ces cérémonies qui reprennent les grands rituels que sont le premier sillon ou la sériciculture. Et Qianlong aussi, qui est conscient que ses chasses ou toute sa garde rapprochée va retrouver un peu cette nature proches des zones dont, enfin des régions dont ils viennent, les Mandchous, que ces hommes donc vont retrouver une vigueur qu'ils ont perdue à la cour à Pékin. Donc Tianlong choisit le sujet. Hein. C'est pas le peintre qui dit Majesté, j'ai envie de peindre vos chasses. C'est vraiment l'empereur qui choisit. L'empereur qui d'ailleurs écrit des poèmes lui-même sur ses chasses. Hein, donc,
C'est le peintre qui choisit. Il préfère les fleurs de prunier.
Oui, sans doute. Les personnages dans des activités, comme on le voit sous Kangxi, on voit représenter les pêcheurs ou les agriculteurs. Mais tout ça, ce sont en fait, c'est une très forte incitation de l'empereur. Tous ces peintres que l'on présente dans l'exposition, c'est ça, ce sont des sujets qui correspondent à une volonté. C'est en cela que c'est une peinture officielle, hein, même si ce sont des peintres qui ne sont pas, qu'on ne peut pas limiter à ce rôle d'exécutant, ce sont quand même des peintres qui répondent à une volonté impériale, hein, des choix impériaux.
Alors vous présentez des livres de sceaux, à quoi ça sert un livre de sceaux ?
Alors les livres de sceaux, ça sert à livrer une sorte de nomenclature de tous les sceaux utilisés par l'empereur dans toutes les circonstances, et voilà, et pour authentifier, si vous voulez, les sceaux impériaux. C'est une collection, ça serait comme un ensemble de tampons qui sont authentifiés, si vous voulez, dont on peut garantir qu'ils ont été utilisés par l'empereur dans telle et telle circonstance, pour qu'on les connaisse.
Pas de contrefaçon.
Voilà, par exemple. Ouais, mais...
Donc les sceaux, c'est une signature.
C'est une signature est gravée dans des blocs de jade, essentiellement pour les sceaux impériaux, et qui joue sur à la fois l'esthétique des caractères chinois, sur la phonétique aussi, et qui disent donc que l'empereur a vu telle peinture dans telle circonstance, dans tel pavillon, à tel moment de son règne, à telle période de l'année, en la présence de telle ou telle personne. Et on n'hésite pas à marquer la peinture de ces sceaux pour montrer l'appartenance aux collections impériales. C'est fait partie de l'esthétique de la peinture.
Quelle est votre pièce préférée ?
Alors, sans conteste, le grand cadeau, je trouve, que le musée de Taipei nous a fait, c'est le prêt du paysage de Castiglione. Voilà. Alors, je ne peux pas dire que ce soit ma pièce préférée, si vous voulez, mais pour moi, c'est la plus belle surprise, parce que cette pièce, je ne suis pas allée la voir à Taipei. Je n'en avais pas le temps, si vous voulez. Je l'ai choisie un petit peu comme ça, par intuition, à partir d'un catalogue. Et je suis très heureuse de voir cette peinture qui est une sorte d'hommage d'un peintre d'origine européenne à la tradition de la peinture chinoise et qui me paraît faire converger un peu toutes les questions que l'exposition met en place vers cette rencontre, comme je vous disais tout à l'heure, cette rencontre qui se fait autour de la conviction que la Chine a une culture absolument passionnante. Et je trouve très touchant qu'un homme du XVIIIe se soit à ce point senti à la fois en admiration, en proximité, presque en obligation, disons, de rendre cet hommage à la peinture chinoise. Voilà. Bien évidemment, j'aime beaucoup nos rouleaux impériaux. C'était une vraie découverte, même pour nous, de les voir comme ça présentés dans leur ensemble, parce qu'on distingue mieux les différences. Et je trouve qu'il y a une poésie dans les rouleaux de Wang Hui qui est très frappante et qui, grâce à la confrontation justement avec les rouleaux verticaux où Wang Hui s'exprime en tant que peintre lettré, est mise en évidence. Mais je répète, ce rouleau vertical de Castiglione, je trouvais merveilleux. Et puis, il y a une autre pièce que j'aime aussi beaucoup, c'est le petit portrait de l'empereur Yongzhen, qui est très touchant, qui est une sorte de... qui est rarissime. Hein. Les Chinois ont été très, très admiratifs de ce portrait, probablement ramené par Émile Guimet de Chine, et qui est un portrait d'un empereur dans une position extrêmement en retrait, modeste, presque modeste, la position du lettré. Et je trouve que tous les objets qui sont autour de lui relèvent de cette atmosphère un peu austère, je dirais, par rapport à des choses beaucoup plus somptueuses après. Donc c'est un peu une question piège que vous me posez, mais s'il faut choisir comme ça, voilà, c'est les deux choses que je citerai.